Mes chers amis, vous avez certainement remarqué que depuis quelque temps, je parle souvent de la parole de Dieu, le Verbe de Dieu qui s'est incarné en Jésus-Christ, que nous appelons couramment Fils de Dieu. Pourquoi est-ce que j'insiste tellement sur la parole de Dieu? Tout simplement pour fortifier notre foi. Dieu est unique, mais en lui sont trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ou si nous nous exprimons autrement, le Père, sa parole, le Fils, et l'amour qui l'unit à sa parole, l'Esprit. Ainsi, contrairement à ce que disent les musulmans, les chrétiens ne sont pas des idolâtres. Ils n'ont qu'un seul Dieu qui se manifeste à nous le plus souvent par sa parole, parole qui exprime sa propre pensée, que naturellement il aime. En effet, quand quelqu'un parle, c'est toujours sa pensée qui se manifeste. Il y a des choses difficiles à exprimer. C'est pourquoi nous allons retourner à Gethsémani et contempler Jésus souffrant son agonie. Notre cœur l'entend crier vers le Père. « Père, si cela est possible, éloigne de moi ce calice. » Que se passe-t-il en Jésus? Sa personne divine n'est-elle pas le Verbe de Dieu, toujours présent au sein de la Sainte Trinité? Et n'est-ce pas Dieu, un et trine, qui a pris la décision de sauver tous les hommes pécheurs? Jésus ne devait-il pas être l'agneau immolé? Alors, où est la divinité de Jésus? La divinité de Jésus est toujours en lui. Mais pour sauver les hommes, c'est sa nature humaine qui devait souffrir. Et pour cela, Jésus, Fils de Dieu et Fils de l'homme, devait connaître toutes les souffrances humaines, y compris nos angoisses mortelles. De plus, Jésus voulait nous montrer qu'il avait pris sur lui tous nos péchés, toutes nos misères, toutes nos souffrances aussi, dont obligatoirement nos souffrances psychologiques et les souffrances de nos âmes. Jésus, homme, voulait connaître et vivre dans sa sensibilité et dans son âme, les souffrances de nos âmes. Et elles sont si nombreuses, les souffrances de nos âmes. Il y a tant de choses que nous ne comprenons pas. Il y a tant de détresse née en nous parce que Dieu n'est plus aimé dans nos sociétés modernes. Aussi, constater que les hommes rejettent Dieu, croyant qu'ils sont plus forts et plus grands que Dieu, constater que Jésus, le Fils de Dieu, venu nous sauver, venu nous rendre tout ce que nos péchés nous avaient fait perdre, et constater que Jésus n'est pas aimé, pas écouté, rejeté, lui aussi, cela est pour nous, chrétiens, la pire des souffrances. Et cette souffrance-là, Jésus, Verbe de Dieu, a aussi voulu la prendre sur lui. Mais comment cela peut-il se faire? Comment les hommes peuvent-ils rejeter le Verbe de Dieu? Comment peuvent-ils rejeter la parole de Dieu incarnée? Comment les hommes peuvent-ils préférer le mal qui les détruit et les rend malheureux au bien qui les construit et leur donne le bonheur? Cela, c'est quelque chose que nous avons tous beaucoup de mal à comprendre. Alors, nous réfléchissons, et voici qu'une idée jaillit en nous. Ainsi, ceux qui nous ont précédés étaient certainement dans le vrai quand non seulement ils croyaient à Satan, mais quand ils croyaient également que le démon, Lucifer, envoyait ses anges auprès de chacun de nous pour nous inciter à pécher par ses tentations perverses. Et pourquoi l'ange des ténèbres ne mettrait-il pas, pour mieux nous détruire, ces petits anges tentateurs, destructeurs de l'idée même de Dieu? Les générations qui ont estimé que Satan n'existait pas portent certainement une très grosse responsabilité. J'ai souvent entendu dire que la plus grande perversité de Satan avait été de nous faire croire qu'il n'existait pas, ou bien qu'il avait autre chose à faire que de s'occuper de chacun de nous. Je n'insiste pas, mais je vous assure que toutes ces réflexions, je les ai vraiment entendues, et très souvent. Plus nous regardons notre monde, plus nous contemplons l'évolution de la chrétienté et les persécutions qu'elle a dû subir et qu'elle continue à subir. Nous ne pouvons que penser au fait que le démon a toujours été à l'œuvre pour détruire l'humanité. Et Jésus lui-même eut à subir ces attaques. Et cela continue, car Jésus est toujours attaqué. Oui, Jésus est Dieu, Verbe de Dieu, donc il ne peut pas souffrir. Mais le Verbe de Dieu s'est incarné. Il est devenu homme et a pris sur lui tous nos péchés avec leurs conséquences, nos misères, nos errances, nos détresses, nos souffrances et même nos tentations. Jésus a pris sur lui-même nos tentations. Là, nous devons nous arrêter un peu pour réfléchir avec lui et essayer de nous mettre dans sa pensée. Revenons un peu en arrière et contemplons Jésus le soir des rameaux. Après un tel triomphe, une telle joie pour le peuple et pour les disciples de Jésus, nous pouvons imaginer que les apôtres se reposent. Alors Jésus est seul avec le Père. Il prie, ou plutôt sa divinité a rejoint la Sainte Trinité. La divinité de Jésus a rejoint la Sainte Trinité. Elle a rejoint le conseil des trois personnes de la Sainte Trinité. Et au cœur de la Sainte Trinité, le Père revoit le plan qui, de toute éternité, a été établi pour le salut de l'humanité trompée par Lucifer. Au sein de la Trinité, avec le Père et l'Esprit, Jésus, parole de Dieu, relie aussi le plan de la rédemption établi de toute éternité. Au sein de la Trinité, dans le présent éternel de Dieu. Le temps ne compte pas. En Dieu, éternel présent, le temps ne compte pas. Mais sur la terre, liée au temps, l'heure est arrivée. Et le Verbe incarné doit maintenant donner sa vie incarnée pour le salut de tous les hommes qui font toujours les délices de Dieu. Sur la terre, c'était l'heure pour l'humanité de Jésus de révéler aux hommes l'immensité de l'amour de Dieu pour eux. La passion approchait, mais avant, il donnera aux pauvres humains la nourriture spirituelle dont ils ont et auront toujours absolument besoin. Cette nourriture sera le corps du Christ lui-même, livré pour le salut des hommes. L'Eucharistie était née dans le cœur de Dieu. Dieu Trinité décida et le Verbe accepta. Jésus Dieu revint sur terre, la passion pouvait commencer. Nous sommes à Jérusalem. Jésus donne à ses disciples ses derniers enseignements. Il institue l'Eucharistie et avec eux, il part à Gethsémani où Judas le rejoindra. À Gethsémani, Jésus, homme, contemple ce qui doit arriver. C'est d'accord, le Christ, Verbe de Dieu incarné, sera crucifié. Jésus laissa ses apôtres se reposer, tandis que de nouveau il pria intensément. Mais voilà que soudain Jésus a peur et il tremble, étrangement. Voilà qu'il redoute la volonté de Dieu, sa propre volonté, la volonté du Verbe qu'il est. Jésus a peur et il tremble. Mais que voit donc Jésus pour appeler ainsi le Père et lui demander d'éloigner le calice? Une chose peut nous étonner. Pourquoi Jésus, et plus tard les siens qui prêcheront sa doctrine d'amour, pourquoi Jésus qui sauve les hommes et ne veut leur apporter que le bonheur, pourquoi Jésus est-il toujours persécuté? Dans quelques heures, il sera crucifié après avoir été cruellement torturé. De même, tous ses apôtres seront persécutés, seront mis à mort et plusieurs d'entre eux seront crucifiés comme lui. Partout où l'amour de Dieu mis en acte, c'est-à-dire l'Évangile, sera annoncé, partout il y aura des persécutions. Les premiers chrétiens ont été persécutés et partout où l'Évangile continua et continue à être annoncé, il y eut et il y a toujours des persécutions. Pourquoi tant d'hommes, mais sont-ce les hommes? Pourquoi tant d'hommes se sont-ils acharnés et s'acharnent-ils encore à détruire ceux qui leur apportent le bonheur? La passion va commencer, oui. Jésus prie et il a peur, car Satan tourne sans arrêt autour de lui. Satan étale l'inutilité des souffrances de Jésus, maintenant imminentes, et il lui montre les persécutions de ses disciples, demain et dans tous les siècles à venir. Satan étale aussi l'athéisme des siècles plus lointains, et toutes les sectes qui le glorifieront, lui, Satan. Jésus-Christ, homme sensible et totalement corps et âme, totalement homme, quoique Dieu, mais dont la divinité pour l'instant s'estompe car seul l'homme Jésus doit souffrir, Jésus, l'homme, tremble et a peur. C'est vrai, son être humain aujourd'hui et son corps mystique plus tard ne pourront jamais supporter de telles souffrances physiques et morales. Non, C'est pas possible. Jésus se prosterne profondément, tandis que son sang s'échappe de ses pores dilatés. Père, supplie Jésus à Gethsémani, si c'est possible que ce calice passe loin de moi. Soudain, Jésus, homme, se souvient qu'il est aussi Dieu, Verbe de Dieu, et membre à part entière de la Sainte Trinité. Jésus se souvient que l'Eucharistie qu'il vient de donner aux hommes, son corps et son sang versés, c'est une décision trinitaire, donc une décision qui lui est aussi personnelle. Alors Jésus se soulève et s'écrie « Père, que ta volonté qui est aussi ma volonté de Verbe de Dieu soit faite et non la mienne. Ma volonté d'homme soumis aux sensibilités et détresses humaines, ma volonté d'homme qui a pris sur lui tous les péchés des hommes et toutes les souffrances humaines. Père, que ta volonté soit faite. » Satan s'enfuit. Jésus prie encore, comme en extase, et l'ange vient le consoler. Jésus voit maintenant défiler devant ses yeux tous les saints qui l'auront aimé, tous ceux qui auront donné leur vie pour lui, tous ceux qui l'auront consolé en venant l'adorer, vivant dans son Eucharistie, son corps glorieux ressuscité, son corps nourriture merveilleuse des hommes affamés de son amour de ressuscité. Que se passe-t-il pour nous les hommes lorsque notre corps vient de communier, vient de se nourrir du corps de Jésus ressuscité? Notre bonheur n'a pas de nom sur cette terre. Notre bonheur n'est pas d'ici-bas, il est déjà du ciel. En effet, l'Eucharistie, c'est le corps de Jésus ressuscité, c'est le corps et le sang de Jésus, Verbe de Dieu, un avec le Père et l'Esprit au sein de la très sainte Trinité. Ainsi, sans nous en rendre vraiment compte, nous venons de manger la très sainte Trinité. Nous sommes avec Jésus dans son cœur eucharistique, dans le cœur de Jésus Eucharistie. Donc nous sommes dans le cœur de la très sainte Trinité. Car l'Eucharistie, c'est une décision de la Trinité.